Radio Stable. Morning Edition from
NPR News.
France Inter, le 18-20.
Alors la voilà, cette victoire promise d'Angela Merkel, attendue, logique, 8 mai. Et c'est bien le 8 mai qui nous intéresse ce soir, maintenant qu'on a eu la journée pour digérer. Il reste encore 1000 questions auxquelles on va essayer de répondre. Pourquoi on y retourne? Parce que la coalition qui se dessine n'arrange pas forcément les affaires du couple franco-allemand, ni la vision de l'Europe d'ailleurs d'Emmanuel Macron et peut-être d'autres. On y viendra avec Pierre Benazé notamment. Parce que si, quand un parti d'extrême droite entre dans un parlement, ça n'est jamais anodin. Mais en Allemagne, ça l'est sans doute encore moins qu'ailleurs. Que dit la Grèce? Que dit la Turquie? À quoi va ressembler Merkel 4? Quel défi à venir? Même tête donc qui dirige, mais une toute nouvelle Allemagne peut-être. Voilà pour la question et les réponses, c'est maintenant.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Ce que nous allons certainement faire en priorité, c'est proposer une loi pour restreindre l'accès aux prestations sociales pour les demandeurs d'asile. Nous voulons des frontières plus sûres et une immigration choisie.
Voilà, celui qu'on vient d'entendre, qu'on entendra d'ailleurs plus longuement dans un instant, s'appelle Roland Glaser, militant de l'AFD, l'extrême droite, qui entre donc au Bundestag, on y reviendra. Bonjour Hélène Mire de la Croix.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Allemagne contemporaine, professeur à la Sorbonne. C'est vraiment ça qui saute aux yeux, hein, y compris après la surprise d'hier. Donc l'extrême droite, 12,6%, c'est beaucoup. Est-ce que l'extrême droite allemande a été enfantée par Angela Merkel ou pas?
Par elle-même, non, mais par une combinaison, si vous voulez, de situations. Cette extrême droite est née il y a 4 ans sur une protestation contre l'euro, et puis a sauté sur le cheval au galop de l'arrivée de migrants et la façon dont le gouvernement a géré l'affaire, avec une impression d'invasion, si vous voulez. Ce qui est frappant, je trouve, dans ces résultats, c'est que non seulement il y a 12,6% des voix, mais c'est que surtout, on a affaire à quand même un vrai régime parlementaire avec une proportionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 94 sièges.
Ouais, c'est beaucoup.
C'est beaucoup et ils vont avoir un espace de communication pour faire entendre leur voix et surtout, s'ils continuent à faire comme ils ont fait dans la campagne, ils ont pris l'habitude de repousser les frontières du dicible, casser des tabous et jeter dans l'espace public des mots qui après se promènent et qui sont appropriés.
Alors,
par les gens.
On va y aller effectivement sur les mots qu'on a pu entendre. Leur pouvoir de nuisance au Bundestag, quand on a 94 au siège, c'est quoi le pouvoir de nuisance?
Ah bah écoutez, comme dans tout parlement, ils feront partie de l'opposition et comme c'est un parlement très respectueux de l'opposition, ils auront des tas d'occasions de prendre la parole, de déposer des amendements. Et surtout, donc 94 personnes, ça fait un groupe parlementaire, peut-être même deux, parce que là, ils sont déjà en train de se disputer. Depuis ce matin, ça commence déjà à partir en plusieurs morceaux. Mais ça veut dire aussi tout un personnel qui va les accompagner et donc une présence très, très audible.
Ce qui est frappant, c'est que, et ça on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est surtout vers l'ex-Allemagne de l'Est que l'extrême droite allemande trouve son terreau, mais pas seulement, moi je voudrais m'arrêter une seconde sur ce 12,4% en Bavière quand même.
Oui, alors parmi les cartes, vous savez, c'est toujours très intéressant de regarder les cartes après les élections. Il y a deux endroits qui sont très surprenants, c'est en effet l'Est et la Bavière. Parce que la Bavière a en effet s'est détournée relativement fortement de la CSU, qui est le parti frère du parti de Merkel, parce qu'il y a aussi régionalement, si vous voulez, une espèce de lassitude par rapport à ce parti. Et puis simplement les gens qui ont voulu donner un signal d'alarme, au lieu d'aller plutôt vers la gauche, sont allés plus nettement vers la droite, en essayant de donner un message à Seehofer, donc le chef de la CSU, qu'il aurait dû être plus ferme dans l'insistance qu'il aurait pu opposer à Angela Merkel dans l'idée de mettre des plafonds. C'est là-dessus qu'il était complètement en désaccord avec Angela Merkel.
On a beaucoup dit que les débats avaient été plutôt creux pendant cette campagne, qu'il y avait beaucoup de choses qu'on avait esquivées. Est-ce que c'est ça aussi le résultat de ces esquives-là? On n'est pas vraiment rentré dans le fond des choses, y compris sur le sujet des migrants, peut-être y compris sur le sujet du terrorisme, des choses comme ça qui sont restées dans une espèce de nuage au-dessous, personne n'a mis les pieds dedans, sauf l'extrême droite.
Oui, sauf l'extrême droite. Et alors, en effet, dans le Spiegel ce matin, bon, qui est en général pas tendre avec la chancelière, mais pas tendre avec grand monde d'ailleurs, il a été affirmé que, en fait, c'était l'attitude de silence de la chancelière qui était payée là, et cette façon qu'elle a d'esquiver les questions en disant tout va bien, on va continuer comme ça, nous sommes dans un pays qui a de bons résultats économiques, et donc qui a caché aussi et refusé de mettre en mots le malaise que peuvent avoir certains qui votent à ce moment-là pour des propositions très, très radicales. Et dans l'Est de l'Allemagne, c'est tout à fait étonnant. Les meilleurs résultats, ceux qui arrivent en tête, c'est et l'AFD, donc la droite xénophobe, et la gauche radicale.
Mais du coup, colère ou conviction, hein, qu'est-ce qu'on dit ?
Alors ça, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème, il va nous falloir un petit peu de temps pour voir ça. Dans quelle mesure, si vous voulez, est activée là, en Allemagne, une espèce de fond d'antisémitisme, d'anti-islamisme, de xénophobie, voire de tentation autoritaire, antidémocratique, qui pourrait être de l'ordre de 4 ou 5% qu'on a à peu près dans tous les pays. Dans quelle mesure il y a au contraire une tendance d'une partie de la population de se détourner de l'offre des partis traditionnels et du socle de valeurs qu'ils représentent.
Alors, sauf que se détourner des partis traditionnels dans des pays comme les nôtres, alors ça nous choque suffisamment, mais il y a un certain nombre de choses que j'allais presque dire dont on est habitué. En Allemagne, non, parce qu'il y a l'histoire qui parle. Qu'est-ce que ça dit de ce pays quand même quand l'extrême droite arrive au Parlement ? Est-ce que c'est un retour au vieux démon ou est-ce qu'au contraire ça dit que 70 ans après, il y a une digestion qui a été faite et c'est autre chose qui vient. Qu'est-ce que ça dit de ça quand même en Allemagne ?
Alors ça dit un peu des deux, j'allais dire. Ça dit un peu des deux et ça raconte aussi l'histoire de l'Allemagne divisée. Parce que si en effet les résultats de l'AFD sont très très forts dans l'Est de l'Allemagne, ça veut dire qu'il y a malgré 25 ans, presque 30 ans d'un pays réunifié, il y a dans une partie de la population un manque de socialisation, si vous voulez, dans le régime parlementaire pluraliste et dans le respect et la tolérance. Et c'est aussi cela que ça interroge. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, les gens des zones orientales de l'Allemagne qui sont en colère après le système vont se saisir de ce qui fait tabou. Et je crois que là, il y a une arme qui est très très forte. C'est une façon d'autant plus agressive, si vous voulez, d'attaquer les partis au pouvoir que d'aller chercher ce qui est tabou au sens premier de tabou. C'est ce qu'on ne touche pas, c'est ce qui ne doit pas être approché.
Hélène Mière de la Croix, puisque vous restez avec nous, on aura l'occasion d'y revenir. Je voudrais quand même qu'on dise un mot, même plusieurs, de cette fameuse coalition qui arrive, enfin en tout cas si elle arrive à se former, parce qu'effectivement on n'est pas au début d'en voir la fin. Les libéraux, plus les verts, plus donc la CDU d'Angela Merkel, on appelle ça la coalition jamaïcaine à cause des couleurs. C'est la carpe, le lapin et allez savoir qui, ça va être extrêmement compliqué quand on regarde les programmes de chacun sur le nucléaire, sur l'Europe, sur l'énergie. Qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces gens-là ?
Ben, ils ont l'obligation de faire un gouvernement. Vous avez oublié le quatrième membre, c'est-à-dire la CSU de la Bavière, qui est d'habitude alliée avec Angela Merkel, la CDU, et qui ce matin a dit qu'il n'est pas du tout sûr que nous fassions groupe parlementaire commun et qui essaie de montrer sa différence et qui va essayer d'aller rechercher des électeurs de l'extrême droite. Donc là, en effet, si on va chercher l'électorat de l'extrême droite, on est contre l'Europe et on essaie de mettre un coup d'arrêt à l'arrivée d'étrangers. Si on est FDP, on est pour l'Europe, mais pour une Europe de la concurrence avec des formules extrêmement radicales contre les paresseux du Sud, contre les Grecs. Le chef donc du FDP, Lindner, a dit il n'est pas question d'avoir un budget commun qui servira à remplir les caisses de l'État français et encourager la consommation des paresseux du Sud. Enfin, je veux dire, c'est très très violent. Et comme vous l'avez dit, y compris sur la transition énergétique, il y a chez les libéraux une disposition à aller de l'avant et à considérer que c'est du progrès. Simplement, pas du tout selon les mêmes modalités. Les Verts sont plus pour une intervention de l'État avec des règles. On va fermer les centrales, on va imposer les voitures électriques, alors que les libéraux, parce qu'ils sont libéraux, estiment qu'il faut laisser le marché décider, qu'on ne peut pas dire aux entreprises ce qu'elles doivent faire.
Et on va y revenir dans Un jour dans le monde. Un dernier mot sur le SPD qui a l'intention d'entamer une cure d'opposition, mais au final, si accord il n'y a pas dans cette coalition un peu bizarre, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent revenir en arrière ou pas ?
Alors tout est possible. Là, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en prend pour un bon moment. La chancelière a dit aujourd'hui qu'elle pense qu'on aurait quand même un gouvernement avant Noël.
Oula !
On ne va pas commencer à négocier avant le 15 octobre.
On dirait qu'on n'a jamais été aussi près de Noël.
Enfin. Voilà. Mais on ne va pas commencer à négocier avant le 15 octobre parce que le 15 octobre, il y a des élections régionales et on ne veut pas donner des signaux et perturber l'élection régionale. En effet, le SPD a tout de suite réagi. Alors ça lui est reproché aussi, mais a réagi le soir même en disant nous partons dans l'opposition avec une certaine logique. Si vous voulez, à force de se faire grignoter. Simplement, en effet, s'ils ne parviennent pas à un accord avec cette coalition à la jamaïcaine, soit le SPD revient sur sa position, soit on revote.
C'est possible, ça ?
Ah, c'est ce que prévoit la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution.
Bah, écoutez, ça promet d'être passionnant. Vous restez avec nous, Hélène Mière de la Croix. On va passer toute cette heure pour essayer de comprendre cette élection allemande parce qu'elle nous concerne de très près. Nous irons à Bruxelles voir les réactions européennes dans un instant. Nous irons aussi en Grèce et en Turquie. Et puis, quel grand dossier pour ce Merkel 4 avec vous, Cyril Sauvageon. Bonsoir, Cyril.
Bonsoir.
On va parler automobile, notamment.
Oui, l'avenir du diesel et de l'industrie auto, c'est un grand chantier à venir pour l'Allemagne. Nous sommes rendus à Stuttgart, berceau de Porsche et Mercedes. Stuttgart, malade de la pollution et qui pourrait interdire les voitures diesel.
Et on ira dans un instant, Cyril, tant que je vous tiens, puisque c'est vous qui avez choisi la musique d'Un jour dans le monde ce soir, parce que vous l'aimez, je vous laisse dire ce qu'on va entendre.
Alors, c'est un auteur-songwriter de l'ouest de l'Allemagne. Il s'appelle Gisbert zu Knüphausen. Il est considéré ici comme l'un des plus doués de sa génération. Il sort bientôt son nouvel album, le premier depuis 7 ans. On va écouter le single Unter dem hellblauen Himmel.
Et à tout à l'heure.
Unter dem hellblauen Himmel, auf dem warmen Asphalt, zwischen den Häuserfassaden steht ein Junge und hält sein Mädchen ganz fest an den Händen. Sie redet, er lacht und schon bald wird sie ihn küssen und denken, ja, so soll es sein, so leicht, so schön, so frei. Ein paar Straßen weiter vor dem Eingang des Billig-Discount-Supermarkts sitzt ein Mann mit Hund, Tag ein, Tag aus, und pöbelt sie an gestressten Großstadtroboter hin. Um ihr Leben beneidet er sie nicht. Aber manchmal, wenn es um ihn ganz still wird, dann hört er sich selbst widerspricht. So wollte ich doch nie sein. So frei, so frei, so allein. Es ist ein Mittwoch kurz vor Herbst. Ein alter Baum fängt schon mal an, sich zu entkleiden. Sommer war ein viel zu kurzer Scherz und hinterlässt nichts als betretenes Schwein, bis sich endlich einer aufrafft und müde lacht. Unter den Platanen im Stadt. Leise rauschen Wind. Auf einer aschgrauen Parkbank sitzt eine Mutter mit Kind. Die Augen ihres Neugeborenen, sie leuchten wie zwei schwarze Laternen. Und wenn sie tief hineinschaut, dann ist ihr zu viele sie. Zwischen die Sterne in die Tiefen des Universums, wie in eine andere Welt, in der alles zärtlich und warm ist und mit Sinnhaftigkeit.
Voilà, comme d'habitude, je mettrai le titre sur mon compte Twitter parce que je ne peux pas le prononcer, mais en tout cas, ça s'appelle Sous le ciel bleu clair, c'est le titre, et c'est déjà ça.
Bien sûr, l'entrée de l'AfD au Bundestag constitue un défi considérable. Nous devons prendre la mesure de ce résultat.
Un jour dans le monde après les élections allemandes. Et maintenant, jusqu'à 19h, Cyril Sauvageau, on en parlait ensemble à l'instant. Il y a beaucoup de choses sur le bureau d'Angela Merkel pour ce Merkel 4, si on peut dire, avec de lourds dossiers. On en a déjà parlé, on y reviendra, de cette fameuse coalition jamaïcaine, la CDU, les libéraux et les verts, ce ménage à trois un peu compliqué. Comment s'entendre quand on a des positions parfois totalement opposées? Et notamment, donc, Cyril, sur l'automobile et l'avenir du diesel. C'est à Stuttgart que vous nous emmener. Il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que Stuttgart, c'est Porsche et c'est aussi Mercedes et la ville la plus polluée du pays.
La sixième ville d'Allemagne, oui, a depuis longtemps un gros problème de pollution atmosphérique. C'est dû notamment à sa situation géographique au fond d'une cuvette. Et dans certains quartiers, les taux de particules fines dépassent parfois de 100% la norme autorisée. Werner est chauffeur de taxi depuis une vingtaine d'années. D'après lui, la situation ne fait qu'empirer.
Il faut absolument réduire le nombre de voitures dans cette ville. Comment y parvenir? Bien sûr, c'est compliqué. Il faut développer les transports en commun. Ensuite, à long terme, la solution serait d'abord de généraliser des voitures électriques, mais ça ne suffira pas à réduire le nombre de véhicules. Il faudra en venir à un système de péage. Il y a tout simplement trop d'automobilistes qui entrent et sortent de Stuttgart. Ça représente 300 000 voitures par jour. C'est beaucoup trop.
300.000 autos fahren rein und wieder raus. Das ist einfach zu viel.
comment soulager les habitants sans pénaliser l'activité des entreprises. Le sujet est très politique. Il divise actuellement le gouvernement régional du Baden-Württemberg, une région dirigée en coalition, devinez par qui ? Par les Verts et les conservateurs de la CDU.
Donc une sorte de laboratoire, Cyril, de ce que pourrait être, ou en tout cas en partie, le futur gouvernement Merkel.
Et si c'est le cas, ça promet de sacrés débats entre les impératifs de santé publique et les intérêts économiques de la région. Difficile de trancher. N'oublions pas qu'à Stuttgart, l'industrie auto est surpuissante. Les autorités locales ont proposé un système de vignettes bleues pour empêcher les voitures les plus polluantes d'entrer en ville. Proposition refusée à Berlin pour l'instant. Edgar Neumann est porte-parole du ministère des Transports du Baden-Württemberg.
Cette vignette bleue que nous proposons serait réservée aux voitures qui respectent les normes d'émission de dioxyde d'azote. Elle pourrait être utilisée dans toutes les grandes villes. C'est un problème partout en Allemagne. Et nous avons toujours dit que le gouvernement fédéral doit s'en charger. Mais le ministre des Transports de la Grande Coalition n'en veut pas. La chancelière a dit récemment qu'elle non plus n'était pas convaincue. D'après elle, c'est impossible à contrôler. Nous pensons au contraire que c'est le moyen le plus simple de savoir qui peut entrer en ville et qui ne peut pas. Notre espoir, c'est que le futur gouvernement change d'avis.
Pas de vignette bleue pour l'instant donc à Stuttgart, mais la solution au bout du compte pourrait être plus radicale.
Et plus radicale, ça veut dire, Cyril, une interdiction totale des moteurs diesel en centre-ville. C'est ce que réclame en tout cas une association de défense de l'environnement.
L'association Umwelthilfe a saisi la justice. Elle a obtenu gain de cause en première instance. Et si rien n'est fait pour réduire durablement la pollution, l'interdiction pourrait entrer en vigueur dès 2018 et plusieurs autres grandes villes pourraient suivre. Depuis le scandale du Dieselgate chez Volkswagen, le sujet est très sensible dans l'opinion et l'avenir du diesel fait beaucoup parler. Jusqu'ici, les constructeurs sont restés fidèles à la technologie diesel, quitte à manipuler, on l'a vu, un peu les émissions. Et pendant ce temps, ils ont pris du retard sur la mutation vers l'électrique. C'est le sentiment du président de Umwelthilfe, Jürgen Resch.
Quand on sait que l'industrie automobile allemande a fait 36 milliards d'euros de bénéfices avant impôts l'année dernière, on peut se demander pourquoi cet argent n'est pas investi dans les technologies d'avenir. Pendant ce temps, les développements des infrastructures électriques prennent du retard. Le risque, c'est que notre industrie automobile connaisse le même destin que Nokia, qu'elle s'obstine à croire jusqu'au bout que les consommateurs lui feront confiance et qu'elle ne voit pas qu'entre-temps d'autres acteurs avec des offres nouvelles et compétitives arrivent sur le marché.
À la clé, il y a un enjeu absolument capital pour l'Allemagne, l'avenir de l'industrie auto, fleuron du Made in Germany, qui emploie 800 000 personnes et pèse 13% du PIB. Comment rester leader à l'avenir? Comment réussir le virage vers une mobilité propre, plus en phase avec l'environnement? Vous voyez que ce sujet a tout pour occuper Angela Merkel pendant son quatrième mandat, et peut-être que finalement, les Verts et les libéraux seront, on verra, les bons partenaires pour avancer sur ce dossier sensible.
On va poser la question. Vous restez avec nous, Cyril. J'en ai pas fini avec vous, si je puis me permettre. Hélène Mière de la Croix, puisque vous êtes restée, ce destin à la Nokia pour l'automobile que craignent certains. Effectivement, Cyril le rappelait, fleuron de l'Allemagne, fleuron de nos exportations, mais peut-être une transition à faire qui n'a pas été faite.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, je pense que ça a été très bien dit dans le sujet, il y a eu de la part de l'industrie automobile une espèce de confiance absolue, parce que c'est vrai que la voiture, en Allemagne, on dit qu'elle fait partie de la famille.
Enfin, les gens, que rien n'allait changer.
Que rien n'allait changer, et que de toute façon, il y aurait toujours une demande qui serait là, avec une demande de véhicules traditionnels, solides, roulant vite. Je rappelle qu'il y a quelques endroits où il y a des limitations de vitesse, mais en général, c'est vraiment le pays de la voiture. Et c'est vrai que la transition vers l'électrique et vers les voitures, ce qu'on appelle le car sharing, ne s'est pas faite encore en Allemagne. Et les Allemands qui viennent à Paris, d'ailleurs, sont très, très surpris, agréablement surpris de voir les systèmes d'autolib, etc. Et c'est tout à fait vrai qu'il y a là peut-être une erreur de stratégie. Or, c'est assez long. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de stratégies en place, mises en place, notamment par les rachats des voisins, les prises de participation, pour précisément aller récupérer la technologie électrique. Mais on ne sent pas la population encore très prête à avoir la conséquence, si vous voulez, de dire bon, on vote vert, mais au passage, on veut aussi arrêter notre utilisation très très assidue de la voiture.
Et en termes d'exportation, d'ailleurs, parce que le filon chinois, si je puis dire, n'est pas forcément éternellement extensible, non ? Ils commencent à se débrouiller par leurs propres moyens et différemment de ce côté-là. Est-ce qu'il peut y avoir aussi là une baisse et quelque chose qu'on n'a pas vu venir ou pas ?
Oui,
alors pourrait peser sur l'économie allemande.
Ça, c'est possible. C'est vrai qu'il y a une relative. L'économie allemande a beaucoup profité de l'expansion du marché chinois. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Allemagne l'année dernière. Avec une impression, bien évidemment, milliards de populations, d'une croissance infinie. Sauf que les Chinois développent leur propre industrie. Et puis eux ont aussi des problèmes de pollution et vont peut-être aussi essayer de modifier la donne. Donc c'est vrai qu'il y a une petite incertitude qui commence à poindre là dans ce pays. Et alors que ça se passe en plus dans le Bas-Württemberg n'est pas étonnant, puisque c'est quand même la région où il y a un chef du gouvernement vert. C'est pas un petit partenaire, c'est le chef du gouvernement vert.
Alors Yann Mier de la Croix, il y a aussi d'autres choses évidemment sur le bureau de Angela Merkel. Merkel 4, Cyril, je me tourne vers vous à nouveau parce que la personne qu'on va entendre, c'est vous qui l'avez rencontrée. C'est une retraitée, gros morceau à venir probablement pour les 4 ans qui viennent, une retraitée qui vit comme beaucoup dans un état de grande pauvreté, de précarité en tout cas. On va l'écouter, cette dame qui se nourrit dans l'équivalent de ce que sont les Restos du Cœur. On en parle ensemble juste après, Cyril.
Je suis retraitée depuis 3 ans maintenant, mais je ne touche qu'un minimum vieillesse, même si j'ai travaillé une bonne partie de ma vie. Comme je reçois par ailleurs une aide au logement, ça me donne le droit de venir ici chercher de la nourriture. Pourtant, je gagnais bien ma vie à l'époque de la RDA. Mais je suis tombée gravement malade, je ne pouvais plus travailler, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis dans cette situation.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent que vous touchez pour votre retraite ne vous permet pas tout simplement de vivre.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout compter en permanence. À chaque début de mois, je calcule précisément ce dont j'ai besoin pour la nourriture, mais il ne reste rien pour les à côté. Et comme il y a toujours une dépense imprévue, ça m'oblige à venir ici.
Est-ce que c'est difficile de venir ici chercher de l'aide ?
Je dois vous avouer qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal. Mais avec le temps, cela fait 2 ans maintenant que je viens régulièrement, on met son orgueil de côté et on se rend compte surtout qu'on n'est pas seul dans cette situation. Mais c'est triste d'en arriver là à cause du niveau des retraites.
Cyril, ce qui frappe quand on écoute cette femme, on vivait mieux en ex-RDA, voilà ce qu'on a entendu. Est-ce que le terreau de l'extrême droite, il est là aussi ? Est-ce qu'il parle là dans ce reportage qu'on vient d'entendre ?
Mais je crois que ça résume bien. Alors, ça ne résume pas de ce que Monica a glissé comme bulletin de vote dans l'urne ce week-end. Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, d'une réalité qui est particulièrement forte en ex-Allemagne de l'Est, une précarisation d'une partie de la population et notamment des personnes âgées. Il y a une hausse de la pauvreté en Allemagne qui est importante et qui est particulièrement importante dans ces anciens territoires de RDA où beaucoup ont perdu leur travail au moment de la réunification. Et c'est vraiment un des enseignements du scrutin de ce week-end. Le très bon score de l'extrême droite, c'est pas seulement la politique migratoire d'Angela Merkel, la peur du déclassement, la peur de la pauvreté qui concerne de plus en plus d'Allemands. Il va falloir y répondre pour endiguer la montée des populistes et c'est particulièrement vrai dans cette ex-Allemagne de l'Est.
Merci beaucoup Cyril Sauvageau. Hélène Mière de la Croix, on entendait effectivement ce que disait Cyril à l'instant. Le dossier des retraites, c'est un lourd dossier. On dit qu'à partir de 2030, il faut trouver quelque chose en fait en Allemagne. Est-ce que ça veut dire qu'on va mettre ça sous le tapis pour ces 4 ans-là ? Est-ce que c'est suffisamment compliqué comme ça ? Ou est-ce que ce gouvernement allemand est capable de s'emparer de ce problème-là ?
Il va falloir s'en emparer parce que là, l'exemple qui est donné par ce témoignage est tout à fait juste. D'abord, Cyril Sauvageau a tout à fait raison. Cette personne a très probablement perdu son emploi, comme beaucoup, au moment de la fermeture de beaucoup d'entreprises en RDA. Mais surtout, c'est un des restes, si vous voulez, d'après la réunification. Il a fallu à l'Allemagne de l'Ouest ou au système collectif de l'Allemagne de l'Ouest récupérer, si vous voulez, les cotisations qui n'avaient pas existé au moment de la RDA. Et c'est vrai que depuis la réunification, le niveau des retraites de RDA, enfin de l'ancienne RDA, est inférieur. Si en plus vous n'avez pas cotisé toute votre vie, en effet, ces retraites sont très petites. Ce qui était un vrai problème et qui est une bombe à retardement, c'est que la répartition démographique, si vous voulez, fait qu'il va y avoir d'un seul coup, progressivement, dans 3, 4, 5 années, beaucoup plus de retraités, avec une baisse de la population active qui sera moins en mesure de financer les retraites, puisqu'il y a un système de répartition. Et là, vraiment, les choses risquent d'être tout à fait aiguës. Et c'est tout à fait vrai. Cette précarisation, cette impression d'être déclassé et de tomber très bas est tout à fait présente là, parce que c'est vrai que si on regarde la carte, la présence des migrants, eh ben, ils sont pas du tout là où on a voté AFD.
Et comme souvent, d'ailleurs, dans ce genre de situation. Allez, on file à Bruxelles.
France Inter, le 18-20.
Pierre Benazé, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Pierre, Angela Merkel, ce soir, est une femme réélue, donc c'est sûr, mais on le dit là depuis presque trois quarts d'heure, pas au mieux que sa forme. Qu'est-ce qu'on dit de cette victoire en demi-teinte chez vous, à Bruxelles, au siège de l'Europe?
Ben disons que pour l'instant, les Européens, en quelque sorte, savent pas encore trop sur quel pied danser. On a vu dès hier soir arriver des communiqués de la plupart des partis représentés au sein du Parlement européen, qui pour l'essentiel félicitent Angela Merkel pour sa quatrième victoire, ou bien qui se félicitent eux-mêmes du résultat de leur propre famille politique. C'est évidemment pas le cas des membres du Parti social-démocrate européen, dont beaucoup ont cru ici, jusqu'à la fin de la campagne, que l'ancien président du Parlement, Martin Schulz, allait pouvoir capitaliser sur son expérience ici avec son programme européen. Bon, ça s'est pas passé. Mais c'est justement l'engagement européen du futur gouvernement allemand qui crée un certain nombre d'inquiétudes ici. Tous sont convaincus que l'Europe est dans l'ADN de tous les partis représentés au Bundestag, mis à part, évidemment, Alternative für Deutschland. Mais si la percée historique de l'AFD et son arrivée à la Diète fédérale provoquent évidemment des remous, ce sont les choix européens du futur gouvernement qui est ici en question. Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, l'a dit ce matin, il veut que, devant les défis du moment, l'Europe a plus que jamais besoin d'un gouvernement allemand fort. On est convaincu ici que le couple franco-allemand continue à jouer le rôle de locomotive de l'Europe et que l'Allemagne est en grande partie le moteur de cette locomotive. Et ce que les Européens souhaitaient avant tout, c'était la stabilité, la continuité, ce qu'ils vont évidemment perdre puisque Martin Schulz ne veut pas reconduire la grande coalition. Pour tous ici, il est pressant qu'une nouvelle coalition soit composée rapidement, ce qui fait déjà figure de vœux pieux.
Voilà, et on a vu que ce serait pas si simple. Enfin quand même, Pierre, je vous écoute, tel que ça se dessine, la chancelière qui fait alliance avec les libéraux du FDP, est-ce que ça veut dire quand même que le couple franco-allemand a un vrai plomb dans l'aile? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra se passer d'un certain nombre des grands projets d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on dit ça du côté de chez vous?
Mais alors, ce qui est certain, c'est que vu d'ici, le programme des libéraux est de l'aveu des libéraux au Parlement européen, un programme extrêmement pro-européen. Mais ce qui est clair, c'est que Christian Lindner, le chef de file des libéraux, le programme sans embâche depuis le début de la campagne, il ne veut pas de projet économique européen que le président français a proposé à Angela Merkel. Et d'ailleurs, elle les soutenait jusqu'ici relativement du bout des lèvres. Elle trouvait que ça manquait un peu de contenu, qu'il fallait donner du corps à ses propositions. Lui, Christian Lindner, il l'a dit, il ne veut pas que l'argent des contribuables allemands serve à soutenir le budget français ou bien, je cite, à réparer les erreurs de Silvio Berlusconi. Les libéraux ont axé leur campagne, souvenez-vous, sur la politique économique, Wirtschaftspolitik, et l'idée d'un budget de la zone euro mis en avant par Emmanuel Macron va au-delà d'une de leurs vraies lignes rouges. Il en va de même de l'idée d'un ministre des Finances de la zone euro, pourtant qui est soutenu par ce même Jean-Claude Juncker, en parlait à l'instant. Et puis, il y a fort à parier que la proposition d'un Parlement de la zone euro reçoive un accueil tout aussi glacial de la part du FDP, des libéraux. Alors c'est vrai, on l'a dit suffisamment, Angela Merkel ne veut pas d'un gouvernement minoritaire. La seule possibilité en vue, c'est cette fameuse coalition jamaïcaine avec les Verts, qui eux sont beaucoup plus ouverts, dit-on ici, à l'idée d'un approfondissement de l'intégration européenne. Et c'est vrai, les libéraux vont certainement devoir eux aussi mettre de l'eau dans leur vin. Mais il faut tout de même souligner que le FDP vise le portefeuille des finances, celui que détient actuellement Wolfgang Schäuble, un portefeuille qui est évidemment crucial pour les projets d'Emmanuel Macron. Et il va donc devoir, dans son discours européen à la Sorbonne demain, apporter à la fois du contenu d'une part et de la conviction d'autre part.
Pierre Benazé à Bruxelles, merci beaucoup. Rapidement, Hélène Mire de la Croix, effectivement, pas de budget commun, pas de ministre des Finances. Attendez, qu'est-ce qui reste de ce que souhaitait Emmanuel Macron pour reformer un couple franco-allemand et reconstruire, on va dire, sur d'autres bases?
Alors je pense qu'il faut pas aller trop vite. On va voir aussi ce qui va se passer parce qu'il va y avoir des vraies négociations. négociations. Et je crois qu'Angela Merkel, là aussi, parce que les négociations vont être très longues, va avoir un certain nombre d'arguments pour essayer de convaincre ses partenaires que l'Allemagne ne peut peut-être pas non plus se permettre cette faute qui resterait dans l'histoire de fermer la porte d'une offre et d'un alignement de planètes avec la France qui permettrait de progresser. Donc là, je pense qu'elle peut faire appel aussi à la responsabilité, au sens de la responsabilité des libéraux. Alors, Christian Lindner, il n'a pas dit complètement non à tout. Il a dit pourquoi pas un ministre des Finances, mais ça dépend pour faire quoi. Si c'est pour faire un bon ministre des Finances comme on le fait en Allemagne,
c'est ça, et ça dépend qui c'est.
Et ça dépend qui c'est. Et puis, si c'est en revanche pour, comme l'ont dit un certain nombre de ses amis de parti, pour envoyer un pipeline, ils ont parlé de pipeline qui envoie du bon argent allemand vers le sud de l'Europe, ça, là, il n'en est pas question. En même temps, c'était de la campagne. Ça, c'était aussi pour récupérer des potentiels électeurs de l'AFD. Et une fois qu'on est en place, on va peut-être mettre de l'eau dans son vin. Donc moi, je ne serais pas aussi radicale sur une porte fermée au président Macron. Mais là, pour reprendre votre image de locomotive, vous avez dit jusqu'à présent, c'est l'Allemagne qui est le moteur de la locomotive. Là, ça voudrait dire que la France, ce serait l'habillage. On va voir ce que dit le président Macron demain, mais ça va peut-être être le contraire. Là.
Bah, écoutez, on verra effectivement ce qu'il a à dire demain. Je voudrais qu'on aille chez les voisins.
Nous allons pourchasser et combattre Madame Merkel et le peuple reprendra le contrôle de ce pays.
Voilà, ça c'était donc hier soir. Et quand je parlais des voisins plus ou moins lointains, mais qui ont un intérêt extrêmement particulier avec l'Allemagne. Je vous laisse deviner où nous allons d'abord.
Başta Merkel, sen de şu anda Nazi uygulamasını yapıyorsun.
Voilà, celui-là, c'est le président Erdogan qu'on vient d'entendre parler des pratiques nazies d'Angela Merkel. Ça donne une idée de l'état des relations entre ces deux pays qui peuvent difficilement ne pas travailler l'un et avec l'autre. Bonjour, Anne Andlauer.
Bonjour.
Vous êtes à Istanbul. Anne, et du haut de sa colère, le président Erdogan s'est impliqué de manière très inédite dans la campagne. Il a appelé à voter ni Merkel ni Schulz. Il a eu cette phrase qu'on vient d'entendre. On imagine un petit peu d'ironie peut-être dans les réactions ce soir, non?
Oui, le premier ministre Binali Yıldırım, qui a envoyé un message de félicitations à son homologue Angela Merkel, n'a pas manqué de rappeler dans une interview télévisée ce matin que la chancelière allait devoir former une coalition et qu'elle avait perdu des voix depuis la dernière élection. Il a ajouté, ironiquement, « c'est son affaire, nous avons trop de travail pour l'aider avec sa coalition ». Moralité, d'après lui, « s'en prendre à la Turquie fait perdre des points aux élections ». Et de poursuivre, je cite toujours le Premier ministre turc, « qui a gagné? Les racistes ont gagné ». Binali Yıldırım faisait référence à la percée de l'extrême droite aux élections de dimanche. Il faisait aussi référence aux sorties d'Angela Merkel sur la Turquie pendant la campagne. La chancelière avait appelé à arrêter les négociations d'adhésion d'Ankara à l'Union européenne et elle critique régulièrement la situation des droits de l'homme dans le pays. Le président Recep Tayyip Erdogan y est aussi allé de son petit commentaire, estimant que les résultats des élections en Allemagne étaient une leçon pour les gouvernements européens qui voudraient lui fermer leurs portes. Le chef de l'État turc a redit qu'il ne renoncerait pas aux négociations d'adhésion, que c'était à l'UE de prendre une décision.
Voilà, pas renoncer, Anne, on a bien compris qu'il fallait quand même que ces deux-là apprennent à travailler ensemble. Il va falloir que chacun mette de l'eau dans son vin, ça va se passer comment?
Le Premier ministre turc Binali Yıldırım a laissé entendre ce matin qu'il voulait une normalisation, maintenant que la campagne électorale allemande était terminée. Évidemment, il voulait dire par là qu'il attend d'Angela Merkel et des autres gouvernements européens d'ailleurs, qu'ils cessent toute critique, notamment sur la liberté de la presse et la liberté d'expression en Turquie. Mais cela risque d'autant moins d'arriver qu'une dizaine de citoyens allemands, dont des journalistes, sont toujours emprisonnés dans le pays et que Berlin réclame chaque semaine leur libération. Le pouvoir à Ankara voudrait aussi que l'Allemagne renvoie en Turquie des centaines de citoyens turcs, considérés comme terroristes, soit pour leur sympathie envers le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, soit pour leur lien présumé avec le coup d'État manqué de juillet 2016. Or, on sait que l'Allemagne a accordé l'asile politique à des dizaines d'entre eux. Il y a peu de chances donc que les relations s'apaisent, même si la Turquie reste un partenaire incontournable pour l'Europe, notamment sur la question des réfugiés.
Anne Andlauer à Ankara, merci beaucoup et bonsoir Athènes, bonsoir à vous Angélique Kournis.
Bonsoir.
Angélique, les relations entre la Grèce et l'Allemagne, on les connaît, elles sont plutôt très mauvaises depuis la crise grecque, l'intransigeance allemande. Pour autant, là aussi, on est obligé de se parler, notamment d'ailleurs de migrants et d'Europe. Est-ce que cette élection a été suivie avec intérêt ou avec beaucoup d'indifférence?
Le résultat des élections allemandes a été retransmis en direct sur tous les médias grecs. Pourtant, dans la rue, ces élections ne préoccupent pas grand monde. Thomas, journaliste allemand vivant depuis presque 30 ans en Grèce, ne s'en étonne pas.
À mon avis, il est très probable que rien du tout ne va changer, car indépendamment de qui sera au gouvernement en Allemagne, il suivra la même voie d'austérité qui est également celle de l'Union européenne. Et je pense que c'est pour ça que les Grecs ne montrent qu'un intérêt moyen pour ces élections.
De fait, les Grecs n'espèrent plus rien sur l'économie. Ils restent persuadés qu'aucun scrutin ne parviendra à stopper l'austérité. Ce qui les inquiète, c'est la question migratoire.
L'Allemagne, tout comme les autres pays européens, veulent des jeunes, productifs, hautement qualifiés. C'est une nécessité économique. Mais ils n'ont que faire du flux de réfugiés, de migrants, tels qu'ils arrivent en masse en Grèce en provenance de pays en guerre.
Thanasis, volontaire qui travaille à l'île de Lesbos, partage le même discours et les mêmes peurs. Lesbos, où à nouveau les arrivées des migrants ne cessent d'augmenter.
Schulz, en tant qu'opposition, parle de démocratie, de ce qui a été fait avec la Grèce. Et en théorie, cela indique une différence politique avec la chancelière Merkel. Par rapport à l'extrême droite et le sujet des réfugiés, cependant, Merkel, en dépit de la réalité, offre un autre visage qui maintient l'extrême droite à distance. L'extrême droite dit que les étrangers et les musulmans vont changer le caractère des peuples européens. Merkel ne dit pas ça, elle dit que oui, nous pouvons intégrer les gens. Pour l'extrême droite, Merkel, c'est le chiffon rouge.
Preuve s'il en est que cette question migratoire est au centre des enjeux ici, le parti néo-nazi grec Obdoré, troisième force politique du pays en Grèce, a salué l'arrivée au Parlement allemand de l'AFD, parti dont il se sent proche. Angélique Couronis, France Inter.
Angélique Couronis, donc, merci beaucoup. Hélène Miard de Lacroix, on les comprend un peu, les Grecs qu'on vient d'entendre, à la fois assez peu de chance pour qu'il y ait un assouplissement des politiques européennes, allemandes vis-à-vis de la Grèce. Et ce qu'on vient d'entendre sur les migrants est extrêmement intéressant aussi, avec l'arrivée de l'extrême droite au Bundestag.
Oui, en effet, ça fait partie des choses qu'on oublie beaucoup, hein, vu de notre parti assez au nord de l'Europe. C'est que, comme l'Italie, la Grèce est très exposée à cette situation. Et c'est ce qu'on pourrait peut-être répondre à ceux qui en Allemagne n'ont pas envie de venir en aide aux Grecs. On pourrait dire que les Grecs font une partie du travail d'accueil et qui n'est pas fait plus haut dans le nord. Non, je pense que alors vous allez me dire que c'est pas très très courageux, mais je pense qu'il faut être à la fois très très vigilant sur ce qui va se passer et en même temps le pronostic n'est pas nécessairement négatif. Simplement, je pense qu'il va falloir vraiment qu'on comprenne que ça va être très long. Ça va être très long.
J'allais dire, il faut attendre jusqu'à Noël. Donc.
Et c'est ça qui est ennuyeux parce que le président français va faire une proposition demain. Alors, c'est peut-être une façon de forcer la main d'Angela Merkel. Peut-être se sont même ils mis d'accord ensemble pour qu'il ait mis sur la table ses propositions qui lui permettraient, elle, de tordre un peu le bras de ces deux ou trois, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier les Bavarois, alliés, auxquels elle pourrait dire, regardez, nous avons ici quelque chose d'historique à faire.
Voilà, ça s'appelle le billet à deux bandes avec le président français. On verra si vous avez raison, on le verra très vite. Je voudrais qu'on aille faire un aller-retour rapide à Londres. Antoine Gignot, bonsoir.
Bonsoir.
Antoine, il nous a pas échappé que le Royaume-Uni ne souhaitait pas rester dans l'Europe. Donc on imagine que les résultats des élections allemandes, on les regarde avec un œil différent, mais quoique, parce que les Allemands sont assis aussi aux négociations quand on discute Brexit, non ?
Absolument, et ça inquiète une partie des Britanniques. Et c'est pire que d'habitude, le Daily Express voit derrière la nouvelle victoire d'Angela Merkel un véritable complot. C'est à la une du journal en gros caractère. Maintenant que la chancelière est réélue, elle va mettre en place un plan pour saboter le Brexit. Et l'éditorialiste explique, l'idée du couple franco-allemand, c'est de créer une Europe à deux vitesses avec un noyau central, France, Allemagne, quelques autres pays liés économiquement, et puis un deuxième cercle formé par d'autres pays qui seraient moins enthousiastes, moins pressés d'être intégrés, et ce serait, selon Richard Tice, l'un des leaders de la campagne pro-Brexit, le moyen de garder le Royaume-Uni enchaîné pour toujours à l'Union européenne.
Antoine, il nous reste 10 secondes quand même, ce que les Britanniques retiennent aussi, c'est pas inintéressant, c'est le slogan de l'extrême droite allemande.
Eh oui, reprendre le contrôle, take back control, ça vous rappelle quelque chose ?
Bah oui.
Eh oui, c'était celui que scandait Nigel Farage, l'ancien leader de UKIP, le parti d'extrême droite, pendant la campagne. Alors évidemment, écrit le Guardian, en Allemagne, on est loin des 52% de la population qui a voté ici pour le Brexit, mais c'est tout de même un tournant, il va falloir s'en préoccuper.
Et merci mille fois à vous, Antoine Gignot, vous revenez évidemment quand vous voulez, dans Un jour dans le monde. Merci à vous aussi, Hélène Miard de Lacroix, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. On aura largement l'occasion de se retrouver, peut-être avant Noël, donc avant que la coalition soit faite. Allez savoir. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger pour clore cette heure allemande d'un jour dans le monde. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Fabienne.
On ramasse tout, hein, si j'ose dire, avec vous et on avance aussi. Première leçon de ces élections allemandes donc. L'effondrement des sociaux-démocrates.
Même pas 21% des suffrages, du jamais vu depuis 1949, et encore, mais moins encore que les 23% obtenus en 2009, vous savez, par le fallot Frank-Walter Steinmeier, alors même que les sociaux-démocrates avaient été censés avoir tout changé, changer le chef du parti pour Martin Schulz, hein, qui avait l'avantage de ne pas avoir été ministre d'Angela Merkel dans une de ses deux grosses coalitions, avec le SPD, changer aussi la ligne du parti, moins conciliante avec la mondialisation, plus à gauche pour fondre l'austérité et les inégalités, mais rien n'y a fait, ou plutôt personne n'y a cru, tant les socialistes allemands ont paru dire une chose et en faire une autre. Le plus frappant a bien sûr été le débat entre les deux candidats, c'était le 3 septembre dernier, souvenez-vous, et les deux adversaires n'ont même pas réussi à se différencier sur les détails, au point que Martin Schulz a fini par remercier la chancelière Merkel.
Quand même, Anthony, on l'explique, cette déconfiture de la social-démocratie allemande, on l'explique comment ?
Deux mots pour le comprendre, hein, division et blairisation, dans le cas allemand plutôt schröderisation. La division d'abord, hein, le SPD est en Allemagne grignoté à gauche par plus radical, Die Linke, ou plus écolo, avec les Grünen, les Verts. De plus, il est dévoré à droite par le conservatisme compatissant d'Angela Merkel, qui fait adopter le mariage gay, abandonne le nucléaire et multiplie les places en crèche. Il ne reste donc plus d'espace politique au SPD, surtout pas pour recueillir les 30% nécessaires pour espérer un jour, peut-être, dans l'avenir, sait-on jamais, gouverner. Ajoutez à cela ce que j'appelle la schröderisation de la social-démocratie. Comment faire campagne sur la justice sociale ou les inégalités quand, dans les années 2000, on a réformé le marché du travail dans un sens moins protecteur?
Alors, vous parliez d'Europe, c'est toute l'Europe sociodémocrate qui est malade apparemment, non?
Oui, c'est partout en Europe. En France, Benoît Hamon a réuni 6,4% de la présidentielle. Aux Pays-Bas, les travaillistes ont fait encore moins bien, 5,7%. C'est simple, en 2000, 10 des 15 pays de l'Union européenne de l'époque étaient gouvernés par des sociodémocrates. Aujourd'hui, seuls 6 pays sur les 28 ont des gouvernements socialistes et tous sont des pays périphériques, hein, Malte, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie et République tchèque. Et en Tchéquie, et bien même en Tchéquie, les perspectives ne sont pas bonnes pour les élections d'octobre.
Alors, est-ce que les travaillistes britanniques ne sont pas l'antidote à cette mort lente que vous êtes en train de nous décrire ?
Et c'est toute la question. Jeremy Corbyn, qui était méprisé par les conservateurs, autant par les conservateurs que par une partie des travaillistes, est en train de se hisser inexorablement en tête des sondages d'opinion. Il a pour lui d'être presque physiquement l'anti-Tony Blair, déjà beaucoup dans un pays traumatisé par les mensonges irakiens de l'ancien Premier ministre britannique. Il a ensuite pour lui la déliquescence des conservateurs englués dans le Brexit, on le voit chaque semaine avec vous. Et pour le moment, ça ne suffit toujours pas pour remporter une élection.
Anthony Bélanger, merci beaucoup. Le 18-20 continue.